Notre vie en église au rythme de l'année liturgique. Réalisé avec Jean-Marie Dujardin et Armand Gall. Chers amis, nous retrouvons Jean-Marie Dujardin, laïc dominicain à Lille. Bonjour à vous Jean-Marie.
Bonjour Armand, et puis je salue particulièrement tous les auditeurs que je suis heureux de retrouver.
Alors aujourd'hui, vous allez aborder quoi comme thème ?
Alors, je voudrais entraîner nos auditeurs dans une méditation sur la Toussaint et la commémoration des défunts, en évoquant particulièrement les béatitudes. Très beau sujet, de nature à nous faire réfléchir et à nous faire entrer dans la prière. La Toussaint, fête joyeuse où l'Église de la terre rejoint celle du ciel par le lien de la liturgie, qui lui fait célébrer la gloire de Dieu dans l'Eucharistie. C'est parce que le Christ a vaincu la mort et s'en est retourné vers le Père nous préparer une place, ainsi qu'il nous le dit dans l'évangile de saint Jean au chapitre 14, que nous pouvons nous unir dans la joie à toutes celles et à tous ceux qui sont entrés dans la Jérusalem céleste, au terme de leur parcours terrestre, durant lequel ils ont cru et espéré en Jésus, sous le souffle de l'Esprit-Saint. La commémoration des défunts, par ailleurs, célèbre le lendemain l'espérance des croyants au sujet de tous les morts d'hier et d'aujourd'hui, pour lesquels, sans exception, Jésus a fait triompher la vie par sa croix et sa résurrection. Ici encore, la Sainte Eucharistie nous conduit à les rejoindre par la prière de foi et de supplication, que constitue le mémento des morts au cours de chaque messe, célébrée chaque jour dans le monde. Le lien incontournable entre ces deux solennités est donc bien Jésus, notre Sauveur, en qui nous professons notre foi dans notre credo. La première lettre de saint Jean au chapitre 3, versets 1 à 3, nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu dès ici-bas, et cela bien sûr en raison de notre baptême et de notre foi en Jésus-Christ, lequel est invisible à nos yeux humains, mais que nous contemplerons dans sa gloire à la fin des temps. C'est ici la réalité que préfigure la vision donnée à l'apôtre dans le passage de l'Apocalypse au chapitre 7, où nous recevons un aperçu de la gloire de Dieu dans la Jérusalem d'en haut, gloire lumineusement et fastueusement proclamée par les êtres célestes célébrant le Tout-Puissant et l'Agneau vainqueur, autour desquels sont en adoration et en action de grâce, tous les élus formant une foule indénombrable. Et Jésus nous enseigne, sous le souffle de l'Esprit-Saint, ainsi que saint Matthieu nous le rapporte au chapitre 5, versets 1 à 12 de l'Évangile du jour, quel chemin il faut emprunter pour parvenir à cet ineffable et éternel bonheur en Dieu. Me voici, bien introduit dans le texte des Béatitudes qu'évoque ce passage, dans lequel Jésus fait plus que lever un coin du voile de la réalité du bonheur en Dieu. Mystérieuse réalité, spirituelle réalité, parce que bien au-dessus et au-delà de celle de notre terre destinée à passer. Jésus gravit la montagne, signe extérieur au travers duquel nous pouvons peut-être voir et pressentir que c'est à l'intelligence supérieure de notre cœur qu'il veut s'adresser, nous invitant par là à descendre en nous-mêmes tout en élevant nos pensées vers lui, Dieu, le Fils, qui est un dans le Père, sous le souffle de l'esprit. Mes pensées ne sont pas vos pensées, pouvons-nous lire au chapitre d'Isaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. Et Jésus s'assied pour enseigner le peuple. C'est le Maître qui parle. Et sa parole est eau vive et feu que rien ne peut tarir. Il nous donne en quelques phrases toutes simples, mais non dénuées d'interrogations et d'étonnement pour qui les reçoit en vérité. Ni plus ni moins que la recette de l'accès au royaume. Par 9 fois, il prononce le mot « heureux ». C'est donc bien de bonheur vrai dont il s'agit, en dépit de ce que les mots ne laissent pas de surprendre et d'inquiéter. Tout simplement, parce qu'il nous place face à un choix radical, pas forcément facile, et déconcertant à certains égards. C'est ce bonheur-là, le seul qui ne passera jamais, que Jésus évoque lorsqu'en Saint Luc au chapitre 13, il dit à ses disciples « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Ou en Saint Matthieu lorsqu'il dit « Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Voilà un langage décapant, n'est-il pas vrai ? Mais cependant, Jésus ne condamne pas les richesses matérielles. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que leur seule raison d'exister, c'est d'être au service du bonheur partagé de l'homme, et non pas de servir son égoïsme générateur du mal, de l'injustice et de la violence. Les béatitudes constituent une véritable mise en exergue de l'amour porté à son plus haut niveau, celui-là même que Jésus nous montrera par son don total sur la croix. Dieu a créé l'homme par amour et pour aimer, et nous voyons ici, en face à face, que c'est le non-amour qui est péché, parce qu'il oppose l'homme à son Créateur. Les béatitudes sont une hymne sublime à l'amour auquel Dieu nous appelle. Tout au fond de mon cœur, je ressens qu'elle constitue un rappel sonnant et percutant des commandements du Décalogue, dont les deux premiers contiennent tous les autres. Je les cite. Tu aimeras ton Dieu par-dessus tout, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il ne nous est pas facile d'aimer en vérité, tellement prisonniers que nous sommes de notre ego. D'où l'évocation de la porte étroite, d'où la difficulté de ne pas tomber dans les tentations de l'argent, aliénantes et sources de calculs mauvais, mensongers et destructeurs. Vous ne pouvez servir deux maîtres, nous dit Jésus, en Saint Matthieu au chapitre 6. Se conduire en baptisé suppose donc que l'on soit solidaire de notre prochain, dans un amour patient et plein de miséricorde, à l'image de ce que nous enseigne Jésus. Et le seul, l'unique support de cette attitude, c'est l'amour par-dessus tout de Dieu. Ce qui nous ramène aux béatitudes que définit Jésus et que je reprends ci-après. Être doux dans l'espérance malgré les afflictions, ne doutant pas de la consolation à venir. Être assoiffé de justice et donc disponible pour nous opposer à l'injustice en dépit de l'inconfort que génère cette situation. Être miséricordieux et pur, avec un cœur sans détour et sans calcul. Être artisan de paix en dépit des violences et des convoitises. Être heureux d'appartenir au Christ, malgré la critique et toutes autres attitudes blessantes qui peuvent être de véritables persécutions, non pas pour le plaisir morbide d'être insulté, moqué ou calomnié, mais parce que nous savons que Dieu sait et qu'il fera justice. Les béatitudes nous bousculent. Leur tonicité conduit Jésus à nous dire, dans les versets qui suivent, « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde », comme pour nous encourager à tenir bon, à ne pas nous laisser affadir en nous voilant la face. Que nos cœurs soient dans la joie, Seigneur notre Père, en fêtant toutes celles et tous ceux qui nous ont précédés et qui ont été de leur mieux ce sel et cette lumière. Mets en nous l'action de grâce au Christ Sauveur qui nous rassemble dans son Eucharistie et reçois notre prière pour tous nos morts. Père, garde vivantes en notre cœur tous les jours ces paroles de ton divin Fils que nous rapporte Saint Jean au chapitre 14, verset 6 de son évangile, et que je cite ici. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. »
Merci beaucoup Jean-Marie, je rappelle que vous êtes laïc dominicain à Lille, à très bientôt pour une nouvelle émission au rythme de l'année liturgique.
Avec grand plaisir Armand, au revoir.
Notre vie en église, au rythme de l'année liturgique. Une émission qui a été réalisée par Jean-Marie Dujardin et Armand Gall.